Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Notre espace intime est traversé par de nombreux courants, désirs, fantasmes, imaginations, mais aussi réalité d'un corps, conscience de son identité. Comme nous l'avons vu dans notre précédente émission, l'intime demande un apprentissage qui varie selon les époques. Reste néanmoins que de tout temps, un lien spécifique relie l'intime et le social. Parce que naître, se marier, mourir relève aussi évidemment de l'intime, nous allons en compagnie du docteur Dominique Desmichel explorer ce chemin. Pour nous y aider, nous nous appuierons sur l'excellente revue Archipel réalisée par l'association Jalma, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, et nous suivrons le fil d'Ariane d'un mythe, celui d'Eros et de Psyché qui ne se rejoignent que dans l'obscurité la plus profonde, l'obscurité de l'intime. Psyché, consternée, sentait que la terreur envahissait son cœur et en chassait l'amour. Elle-même s'était si souvent demandé pourquoi il ne lui permettait pas de le voir. Il devait avoir à cela une terrible raison. Que savait-elle de lui en réalité? Et s'il n'était pas affreux, pourquoi avait-il la cruauté de se dérober à sa vue? Misérable, Alexée, troublée, balbutiante, elle laissa entendre à ses sœurs qu'elle ne pouvait nier ce qu'elle lui avait dit, car jusqu'ici son mari ne l'avait rejointe que dans l'obscurité la plus profonde. Il doit y avoir quelque chose de terrible en lui pour qu'il craigne ainsi la lumière du jour, dit-elle en sanglotant, et elle les pria de lui donner un conseil. Elle le tenait tout près, l'ayant préparé à l'avance. Cette nuit-là, Psyché devrait cacher un couteau bien effilé et une lampe à côté de son lit. Quand son mari serait profondément endormi, elle se lèverait, elle allumerait la lampe et se saisirait du couteau, puis, rassemblant toutes ses forces, elle le plongerait vivement dans la forme affreuse que la lueur de la lampe lui révélerait certainement. « Nous serons tout près de toi, » dirent-elles, « et nous t'emmènerons avec nous dès qu'il sera mort. » Elles la quittèrent, la laissant déchirée par le doute et éperdue, ne sachant que faire. Elle l'aimait. Il était son cher époux. Non, il était un horrible serpent et elle le haïssait. Elle le tuerait. Elle n'en ferait rien. Il lui fallait une certitude. Elle ne voulait pas de certitude. Et ainsi tout le jour. Ses pensées luttèrent entre elles. Quand vint le soir, elle avait abandonné le combat. Mais elle était bien décidée à une chose, elle le verrait. Quand enfin il s'endormit paisiblement, elle rassembla son courage et alluma la lampe. Sur la pointe des pieds, elle s'approcha du lit et éleva la lampe. Elle regarda celui qui était étendu sous ses yeux. Oh, de quel soulagement, de quelle extase son cœur fut rempli. La lueur n'éclairait pas un monstre, mais la plus belle des créatures. Envahie par la honte de sa folie et son manque de confiance, Psyché tomba à genoux, et s'il n'était tombé de ses mains tremblantes, elle aurait plongé le couteau dans son propre sein. Mais ses mêmes mains mal assurées qu'il l'avait sauvée la trahir aussi, car tandis qu'elle restait penchée sur lui, incapable de se refuser la joie de contempler tant de beauté, une goutte d'huile brûlante tomba de la lampe sur l'épaule du bel endormi. Il s'éveilla en sursaut, il vit la lumière et la déloyauté de Psyché, et sans un mot, il s'enfuit. Elle courut derrière lui dans la nuit. Elle ne pouvait le voir, mais elle entendait sa voix qui lui parlait. Il lui apprit son nom et tristement lui dit adieu. L'amour ne peut vivre sans confiance. Et sur ces derniers mots, il la quitta. « Le dieu de l'amour, pensa-t-elle, il était mon époux, et moi, misérable, j'ai manqué de foi en sa parole. Est-il parti à jamais ? De toute façon, se dit-elle encore, le courage lui revenant, de toute façon, je peux passer le reste de ma vie à sa recherche. S'il n'éprouve plus aucun amour pour moi, je saurai, moi, lui montrer combien je l'aime. » Elle se mit en route sans aucun but précis, elle ne savait qu'une chose, jamais elle ne renoncerait à le retrouver. Thank you. C'était un extrait du mythe de Psyché et d'Eros dans une version moderne d'Edith Hamilton que vous pouvez retrouver dans son livre intitulé « La mythologie, ses dieux, ses héros et ses légendes » aux éditions Marabout. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Psyché a trahi la confiance d'Eros. Nous l'avons vu, docteur Dominique Michel, nous sommes donc au cœur du drame, rien ne va plus. Mais avant de revenir à cette idée de confiance, j'aimerais qu'on s'arrête sur le conflit intérieur de Psyché et à la pression qu'elle subit de la part de ses sœurs, car ça doit être une version tout à fait moderne d'Edith Hamilton. D'ailleurs, vous avez dans votre sacoche une version peut-être plus proche de l'original, et ça va être très intéressant de les confronter un petit peu plus tard. En tout cas, Edith Hamilton montre bien ce conflit intérieur de Psyché qui veut et qui veut pas, et la pression que ses sœurs exercent sur elle. La pression, c'est la pression de la société sur l'intime, et c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui.
Alors moi je reviendrai peut-être avant cette dimension du social, hein, je reviendrai peut-être sur l'intime où on peut essayer de réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de Psyché dans sa tête à ce moment-là. En gros, elle s'est faite manipuler par ses deux sœurs. On peut penser, si on essaye un peu de faire de la psychologie, que ces deux sœurs ont dans la tête une vision négative de l'homme, et que c'est un mécanisme de projection, et donc elles disent à leur sœur, « Mais écoute, tu dois être comme nous, il n'y a pas de problème, nous on est des femmes, on sait ce que c'est que les hommes c'est tous des monstres. D'ailleurs nous on en a chacun à la maison, et c'est pas du gâteau.
Hein. » En tout cas, c'est à peu près sûr qu'elles ont un manque, elles aussi, à ce niveau-là, et qu'elles projettent après voilà. Sur les richesses, et puis les bijoux, les diamants... que Psyché possède, elle.
Oui, c'est de l'objet, mais c'est de l'objet certes, mais en même temps, elles doivent être un tout petit peu fascinées par ce personnage de la nuit, hein, parce que si elles veulent l'éliminer, c'est parce qu'elles le détestent. Si elles le détestent, c'est parce qu'elles l'aiment en même temps. Hein. C'est-à-dire, il y a toujours le jeu de l'amour et de la haine. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Hein. Je vous rappelle, c'est dans l'histoire de la pomme de Discorde, peut-être qu'une fois on en reparlera, il y a une déesse ici qui n'a pas été invitée et elle s'appelle Eris. Eris et Eros en grec comme en français, ce sont deux mots qui sont très proches. Eros, c'est quelque chose autour de l'amour. Et Eris, c'est la discorde, hein, c'est la dispute, c'est la violence, c'est l'agressivité, c'est la haine au fond. Hein. Eris et Eros, deux mots très proches. En français, en grec, pareil, ça s'écrit, il y a juste une lettre d'écart. Donc vous voyez, il me semble que là, du côté de ce qui se passe à l'intérieur de Psyché, ce qui se bat dans sa tête, ça n'est pas du côté de « il faut que je le voie ». Ça, à mon avis, elle l'a acté, « il faut que je le voie ». Et moi, je le sens comme quelque chose de vivant. Par contre, il y a l'idée « je dois le tuer ».
Alors êtes-vous certain de cela? Parce que on pourrait se dire que sans les sœurs de Psyché, elle aurait pu, pourquoi pas, continuer à vivre avec son Eros en ne le voyant que dans le noir. Nous avons parlé dans la précédente émission de l'importance du toucher, et peut-être que la vue serait devenue superflue. C'est une hypothèse, évidemment.
Je pense que le critère particulier de l'exclusion du regard, il est fondamental dans cette histoire. Puisqu'il y a l'interdit du voir. C'est comme l'interdit de manger le fruit de l'arbre. C'est la même chose. Donc si on parle de l'interdit du voir, l'interdit du regard, c'est parce que c'est le problème. Voilà. Donc voilà, j'aurais envie de vous dire avec votre copine, votre femme ou je ne sais pas trop quoi, vous pourriez vous dire, bon, à partir de lundi prochain, on arrête de se voir. Vous me diriez, non, je n'ai pas très envie parce que j'aime bien voir ma femme, par exemple. Et puis vous me diriez, mais Desmichel, pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi le problème du voir serait une question? On peut continuer à se voir. Donc il me semble qu'il y a dans cette histoire un interdit du côté du regard. Et ce qu'il faut, c'est dépasser cet interdit. Donc Psyché, elle est prise là-dedans et elle associe de manière terrifiante l'idée que voir, c'est voir un monstre. Et voir un monstre, c'est tuer le monstre.
Alors, voilà. Ça, elle l'associe à cause de ses sœurs. Là, oui, elle met ça dans la tête.
Voilà. On est d'accord, là, quand même. C'est-à-dire, je dirais, elle l'associe à cause de l'histoire familiale. Hein, parce que ses sœurs, on peut dire que c'est aussi probablement une partie d'elle-même. Sinon, elle pourrait dire à ses sœurs, non mais vous me gonflez, là, les deux sœurs, vous retournez chez vous. J'ai eu tout à fait tort de vous inviter. D'ailleurs, mon mec, la nuit, il m'a dit, surtout, va pas fréquenter tes sœurs parce qu'il va arriver un malheur. Hein. Et ben non, elle se laisse contaminer. Donc, il y a quelque chose qui lui appartient psychiquement. Elle est dans l'incapacité à résister à ce désir qui n'est pas un désir de voir, qui est un désir voyeuriste des sœurs, là, hein, et un désir voyeuriste qui est dans une sorte ou de jouissance immédiate, ou surtout ici de désir de meurtre. Hein. Donc le désir des deux sœurs, ça n'est même pas de voir l'homme, c'est de tuer l'homme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du tuer l'homme. Donc il me semble que ça c'est important. Donc Psyché, elle est là, dans cette question de son rapport qui se joue avec son intime à l'intérieur d'elle-même, dans une articulation masculin-féminin. Et on voit bien d'ailleurs que quand elle prend le poignard, hein, puisqu'elle a un poignard et qu'elle se prépare à tuer le monstre, enfin, ce qu'elle pense être le monstre, elle est dans une position masculine. C'est-à-dire, elle a son poignard phallique, elle va renverser les rôles et c'est elle qui va pénétrer avec son instrument phallique son altérité, là, ici, qui est réduit à une dimension passive, c'est-à-dire du côté... Mais là, ce n'est pas un passif accueillant comme le passif féminin, c'est un passif endormi, donc abusif. Hein. Ça n'est plus une relation sexuée avec un masculin et un féminin, ou un phallus et puis un vagin qui accueille, hein, ou un corps qui accueille. Non, on est dans quelque chose qui est violent, hein. C'est de l'ordre du viol. Si elle le tue, c'est la même chose.
Alors, docteur Dominique Desmichel, faisons un pas de côté et revenons à ce mot que vous avez prononcé, contaminer. Les sœurs ont contaminé Psyché. C'est quand même la pression sociale que l'on ressent tous les jours et qui s'exerce sur notre rapport à l'intime. On voudrait parfois vivre d'une certaine façon et on ne le peut pas, même si, selon nos goûts et nos désirs, évidemment, on ne peut pas tout faire. En tout cas, il y a cette loi secrète et invisible de la société qui nous interdit un tas de choses, finalement, et qui nous oblige à être dans les clous.
Oui, on a vu, je crois, lors des précédentes émissions, que l'intime, c'est vraiment quelque chose qui ne se partage absolument pas. Hein. Intériorité et intime, ce n'est pas la même chose. C'est quelque chose qui ne se partage pas, mais en même temps qu'on a envie de partager, puisque... nos amis les plus proches, ce sont nos intimes. Hein. Donc, vous voyez, il y a toujours cette ambivalence qui est qu'il y a une intériorité qui nous est tout à fait propre et probablement extrêmement énigmatique, et on partage relativement peu notre intériorité, parce que c'est quelque chose qui est entre nous et nous-mêmes, simplement. Tandis que l'intime, c'est quelque chose que on ne dévoile pas, qui reste voilé, mais qui, au fond... est appelé à être partagé avec d'autres. Hein, voilà. Donc l'intime, c'est aussi ce qui ne se dévoile pas et ce qu'on a envie de dévoiler. Donc vous avez raison, je pense que dans notre société, il y a des tas de choses qui sont voilées par l'intime et puis il y a un intime qui se dévoile. Hein. On peut penser, je ne sais pas où vous habitez, mais moi par exemple, j'habite dans un petit village ou un gros village, voilà, et on est un petit pâté de maison là. Hein, et ce petit pâté de maison, c'est des maisons individuelles et on se connaît tous et on n'a pas tous les mêmes âges. Je suis sûrement le plus vieux là de l'histoire, mais on se tutoie en même temps, on s'invite, on se fait au moins deux fois par an une petite fête ensemble. C'est-à-dire, il y a un intime. Et pourquoi il y a cet intime ? Pas parce qu'on s'est choisi, parce que finalement, on ne s'est pas choisi, mais parce qu'on sait que dans la relation de voisinage, il y a un intime qui se dévoile, au fond. Il suffit de regarder, je ne sais pas trop quoi, j'ai envie de dire de manière mi-sérieuse, mi-humoristique, vous regardez le fil à linge, et ben vous voyez les slips et les soutiens-gorge de votre voisin ou de votre voisine, vous voyez. Donc, il y a un intime qui se dévoile là. Donc, dans cet intime partagé, on a besoin d'une proximité pour s'assurer que l'autre, par exemple, va respecter l'intime. Et puis, les voisins, enfin, surtout quand... certains voisins, quand les enfants étaient plus jeunes, il y avait le ballon qui arrivait dans le jardin souvent. Bah, la première fois, il sonne, je peux venir chercher le ballon, monsieur, ou je vois. Bon, puis au bout d'un certain temps, quand on voit que c'est fait avec respect, on dévoile quelque chose dans l'intime. Bon, bah, j'ai dit au voisin ou à la voisine, bah, quand tes enfants, le ballon est passé, ils viennent, ils rentrent, et puis voilà. Au risque que, je ne sais pas trop quoi, que je sois en maillot de bain sur la plage, au bout du jardin.
La plage personnelle.
Voilà, la plage personnelle, entre guillemets. Donc, vous voyez, il y a voilà. Et puis, à contrario, on pourrait dire, alors là, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais je crois que ça existe, qu'il y a des relations, des émissions de télévision, de dévoilement public d'un intime, hein, où là, au fond,
ça... Téléréalité, évidemment,
voilà.
Très à la mode.
Donc, où il y a une espèce d'hystérisation, on pourrait dire, de l'intime, c'est-à-dire on va jouir de l'intime dévoilé. C'est-à-dire, à ce moment-là, on n'est pas dans un intime partagé, on est dans une position de voyeur, il me semble. Hein, c'est vraiment alors, du voyeurisme.
Sans aller jusqu'à ces extrémités, évidemment, de voyeurisme, n'est-il pas néanmoins une image du couple qui est façonnée par le regard de la société et auquel il est parfois, je dis bien, c'est heureusement que certaines personnes arrivent à s'en libérer, mais qui pèsent néanmoins sur notre propre rapport à l'intimité.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Par exemple, il serait peut-être pas très bien vu de faire un couple à quatre, par exemple, ou à trois.
Oui, oui, oui.
Plein de choses de cet ordre-là, évidemment. Finalement, ça nous dérange. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas que mon voisin fasse ça, mais on sent bien qu'il y a une certaine image qu'il faut plus ou moins respecter.
Le partage de cet intime nécessite en effet un apprentissage lent, hein, lent dans le temps, et puis lent dans le partage de l'être, au fond, hein, donc il me semble, dans ces deux dimensions. C'est pour ça que les couples à trois, si je puis dire, ou les trinômes, sont toujours beaucoup plus difficiles, parce que là, on a deux altérités, et puis on a une espèce d'altérité tierce, qui est que il y a une altérité qui va être spécifique à deux personnes ensemble, deux autres personnes à partir du trio, et puis il y a une troisième altérité, parce qu'il y a au fond trois binômes, là, ici, 1, 2 et 3, entre A, B et C. Mais il y a une espèce d'autre altérité qui échappe, finalement, à l'altérité partagée du côté de l'intime entre chacun des trois binômes. Donc ça rajoute une complication. Donc c'est pour ça que les couples à trois, si je puis dire, que ce soit dans un milieu professionnel, que ce soit dans un milieu de loisirs par exemple, sont en général beaucoup plus compliqués. Justement parce que ce partage de l'intime ouvre un champ d'expérimentation qui est plus lent.
Alors, depuis le début de l'émission, j'essaie de vous pousser un peu dans vos retranchements par rapport à cette pression de la société, mais j'ai l'impression que finalement, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, selon vous. C'est plutôt, ça serait plutôt de l'ordre du garde-fou et puis quelque chose qui nous permettrait au contraire d'avancer. Je vous tends des crocs en jambes depuis le début qui seraient un petit peu négatifs par rapport à ça, mais peut-être que je me trompe par rapport à
du côté de l'intime, comme... Moi, je pense que l'intime, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, hein, donc à respecter. Il me semble que, idéalement, l'intime, c'est amené à être partagé, mais il faut que ça soit choisi. Voilà. Si ce n'est pas choisi, l'autre est un voyeur, ou moi, je suis un exhibitionniste pour caricaturer, hein, vous voyez, hein. Donc, il me semble que dans l'exhibitionniste, il y a quelque chose qui est... un dévoilement de l'intime, mais ça n'est pas un choix, ou ça n'est pas dans une justesse d'être par rapport à lui-même. Et le voyeur, il est la même chose, c'est-à-dire il va regarder l'intime de l'autre sans que l'autre ait donné son accord. Hein. Donc dans ces deux extrêmes, on retrouve les limites de l'intime. Et je pense que ça dit aussi quand même la fascination qu'exerce l'intime voilé de l'autre. Voilà, parce que on a tous nos côtés un peu voyeurs et on a tous nos côtés exhibitionnistes. Hein. Je prends souvent cet exemple d'un voyage en train entre Paris et Bordeaux où deux personnes qui ne se connaissent pas se mettent à parler. Il y en a une qui parle et l'autre qui écoute. Et de temps en temps, il va y avoir un intime de l'un qui va être raconté à l'autre. Hein. Alors évidemment, il y a un cadre particulier qui est que ce qui est dévoilé ici de l'intime de l'autre est en quelque sorte perdu ensuite, puisque l'autre ne va rien en faire, puisque ces deux personnes ne vont pas se voir, ne vont pas se revoir. Voilà, donc je pense que ça dit bien combien l'intime de l'autre est à la fois terrifiant et fascinant.
Alors pour revenir à Psyché et Rose, dans cet apprentissage de l'intime, dans cette relation avec les sœurs, avec la société, eh bien, vous avez une version, docteur Dominique Michel, nous en parlions avant l'émission, une version de ce mythe, où Psyché est enceinte. Alors c'est peut-être une version d'ailleurs beaucoup plus proche de l'origine du texte.
Oui.
Ça rajoute encore un lien. Oui.
Je pense que c'est avant, c'est intéressant en tout cas, de fait que, voilà, surtout que c'est Eros qui lui dit, t'es enceinte de ce sein qui était, je crois qu'il lui dit, on l'a lu un petit peu avant l'émission, il faudrait que je retrouve dans mes petites notes là, mais il lui dit presque toi qui étais enfant avant, Voilà maintenant que tu es devenue mère. C'est intéressant, puisque au fond, entre les deux, il y a quand même l'idée de la femme, hein,
Et on a un
d'abord.
personnage qui grandit, qui mûrit en tout cas.
Voilà, exactement. Il y a un personnage qui mûrit, et ça dit bien surtout que la fécondité psychique, la fécondité affective, la fécondité spirituelle de ce couple de la nuit, elle est réelle, puisqu'il y a un enfant qui est né. Hein. C'est pas juste, il y a eu un rapport sexuel, donc il y a un enfant qui arrive. Dans les contes, on se fout de cette histoire-là. Hein. Peut-être on reparlera justement des procréations médicalement assistées dans une autre émission, en montrant que là, l'intime, c'est pas toujours simple. Hein. Voilà, donc il y a une fécondité de ce couple-là dans la nuit, mais il y a un manque. Et le manque, c'est l'idée de découvrir l'autre par le regard.
Alors, nous en arrivons à la fin de ce petit passage du mythe que nous avons lu tout à l'heure, avec cette histoire de confiance qui est trahie. Et vous aviez, docteur Dominique Michel, une lecture un petit peu différente du mythe, en tout cas de la version d'Edith Hamilton. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne que finalement, elle a bien fait de trahir cette confiance quelque part.
C'est comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Hein. Ève, c'est celle qui aurait fait la faute, hein, le péché originel. Je rappelle que dans le texte de la Genèse, il n'y a jamais une seule fois le mot ni péché ni le mot faute, hein, rien du tout. Voilà, c'est-à-dire il y a un processus de maturation. Donc il me semble que là, je ne crois pas que la trahison de l'engagement du couple soit délétère. Hein. D'ailleurs, on pourrait dire Psyché, elle a rien promis du tout, dans un sens. Hein. C'est Eros qui lui a dit, c'est comme ça. Voilà, ça se discute pas. Hein. En gros, c'est ou tu restes avec moi et tu me regardes pas, ou tu me vois et dans ces cas-là, on se sépare. Dans le cadre d'une négociation à l'intérieur d'un couple, c'est quand même pas top, quoi. On pourrait dire, il me semble qu'il y a quelques féministes là qui pourraient venir avec leur brancard, leur pancarte
Et leur
plutôt,
brancard
et
aussi,
peut-être leur brancard après, oui. En tout cas, au moins leur pancarte et dire que bon, en gros, ça se fait pas. Donc moi, je pense que le conte philosophique ici dit, comme dans l'histoire de la Genèse, il faut que Ève prennent le fruit, il faut qu'elle le mange pour grandir. Et là, il faut que Psyché voie son homme. On peut pas s'en passer. Et d'ailleurs, on voit bien dans la suite, on va le voir dans les autres émissions, que ça va aboutir à un vrai couple, c'est-à-dire pas un couple simplement de l'obscurité. Et j'aime bien d'ailleurs votre expression de l'obscurité de l'intime. Je trouve que c'est une belle expression. C'est pas un couple de l'obscurité de l'intime, c'est un couple de la luminosité, c'est-à-dire de l'intime partagé dans la lumière. Hein, je trouve que c'est vraiment tout à fait autre chose. Donc je pense que Psyché, elle fait bien le job psychique dans le cadre d'un processus d'individuation. Hein. Vraiment, elle a un vrai processus d'individuation. C'est-à-dire, c'est un parcours initiatique et elle, dans une certaine mesure, dans sa nuit intérieure, elle accepte passivement pendant un certain temps d'être en couple avec Eros. Et puis à un moment, elle dit, non, non, il faut que j'aille au bout de la relation. Et le bout de la relation, c'est que on puisse être couple dans le jour et dans la nuit. Donc, dans la nuit, il n'y a pas de problème, ce couple est fécond, il faut qu'il le soit dans le jour. Hein. Et il va y avoir quand même un petit drame.
Alors, quoi qu'il en soit, Psyché reconnaît son erreur, en tout cas, puisqu'elle dit « J'étais mariée avec l'amour et je l'ai laissé partir. » Alors, l'amour, on n'en a pas parlé tant que ça, d'ailleurs, durant ces trois ou quatre émissions que nous avons faites pour l'instant sur l'intime. Et pourtant, l'intime est au cœur de l'amour et l'amour est au cœur de l'intime, évidemment. Vaste question.
Oui, vaste question. En tout cas, moi, je le sentirais, si vous voulez, en termes de potentiel énergétique. Hein. Ici, l'enjeu, je pense que c'est pas vraiment hein, une sorte de discours métaphysique sur l'amour. C'est un discours sur la rencontre d'un masculin et d'un féminin. Hein. Et on voit bien que dans l'histoire initiale, il y a un masculin diabolisé associé à un monstre. Et qu'à la fin, il va y avoir une deuxième épreuve hein, pour Psyché, hein, parce que elle n'est pas au bout de ses peines. Hein, le Eros, lui, il s'est barré. Voilà. On va apprendre un petit peu plus tard qu'il est quand même un peu malheureux. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même Psyché qui paye et qui va devoir faire tout un parcours. Donc, elle est en train d'expérimenter ce qu'il en est de son désir. Et dans le texte que vous avez dit, que vous avez lu, elle dit bien, même si je dois le chercher toute ma vie, Voilà.
Je le chercherai, oui.
Je le chercherai. Il faut que je le trouve. Alors, en effet, ce qui la meut à l'intérieur d'elle-même, en profondeur, c'est en effet ce sentiment amoureux ou ce manque. C'est-à-dire, il faut qu'elle arrive à trouver à l'intérieur d'elle-même ou avec l'autre, ou via l'autre, dans quelque chose d'une sorte de bisexualité intérieure, mais qui se vit dans la relation aussi, hein, au quotidien, une forme d'unité. Hein.
Docteur Dominique Desmichel, eh bien, nous allons nous quitter sur ces mots. On se retrouve dans 15 jours avec une psyché qui aura repris du poil de la bête, et puis qui va prendre le taureau par le corne, si je puis dire, et en tout cas prendre sa vie en main, et aller jusqu'au bout de son aventure pour retrouver l'amour.
Merci Simon.